en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
À Sainte-Hélène, Napoléon s'interroge sur le pouvoir de l'opinion et le mystère qui l'entoure. Il rappelle qu'il avait voulu donner la Légion d'honneur à Talma, le grand acteur, mais il se heurta aux préjugés de l'époque. On ne décore pas un histrion de la Croix des Braves. Pourtant, il fit une tentative afin de sonder cette opinion en attribuant à Crescentini, chanteur castra, un Italien, la couronne de fer, un ordre étranger. Hélas, ce fut un tollé général attribué à un castra la décoration. Toutefois, la grande cantatrice, la Grassini, plaida pour son partenaire de Roméo et Juliette. Entre parenthèses, singulier Roméo que ce castra, et inattendue Juliette que cette chanteuse mûrissante. En tout cas, la Grassini vint au secours de Crescentini en déclarant avec humour « Il est décoré à cause de sa blessure », comprenons de sa mutilation comparée à une amputation de soldat. Et elle ajouta « Si on a décoré un castrat, on n'a pas décoré un couillon. » Ce jeu de mots un peu osé, répandu dans les salons parisiens, fit rire. L'opinion se retourna en faveur du castrat et la décoration fut approuvée. Mais l'opinion est versatile. Le préjugé contre les acteurs subsista. Talma, qui n'était ni castrat ni couillon, n'eut pas la Légion d'honneur. Et Napoléon de constater avec amertume « Tel est l'empire de l'opinion. Je distribuais des couronnes à ma guise et je n'eus pas le pouvoir de donner avec succès un simple ruban. » Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je ne reviendrai pas sur la définition de l'opinion publique ni sur sa formation qui ont été magistralement évoquées lors des communications précédentes. Je répondrai simplement à trois questions. Comment l'opinion s'exprime-t-elle sous Napoléon? Comment a-t-il tenté de la maîtriser? Et comment, allant plus loin, a-t-il essayé de l'influencer? Première question, comment l'opinion s'exprime-t-elle sous Napoléon? Il n'y a pas de sondage à l'époque permettant de la connaître. L'expérience des cahiers de doléances de 1789 ne sera jamais renouvelée. L'opinion peut s'exprimer par les élections entrées désormais dans les mœurs depuis la Révolution, mais les élections sont espacées et se prononcent plus sur des hommes que sur des programmes précis, et la participation généralement est faible, 30% environ, nous y reviendrons. Dans l'immédiat, il y a la presse et les écrits, livres, brochures, feuilles volantes. C'est là aussi un phénomène nouveau. Avant 1789, il n'y avait pas de vrais journaux et la librairie, comme la littérature de colportage, était étroitement surveillée. La presse naît avec la Révolution, avec l'ami du peuple, avec le père Duchesne, avec les révolutions de France et de Brabant, avec le vieux Cordelier. Le régime de la presse, sous la Révolution, a connu des hauts et des bas, tantôt libres, tantôt censurés. Mais l'on peut retrouver, à travers les journaux, plus ou moins éphémères, les grands débats qui ont agité l'opinion. Sous Napoléon, la lecture de la presse reste toutefois limitée alors à une certaine élite. Le journal des débats, devenu journal de l'Empire, a 20 105 abonnés. La Gazette de France, 3750. Le Journal de Paris, 9000. Le Journal de Paris doit d'ailleurs ses lecteurs à la place qu'il accorde aux faits divers. Le Journal des débats, lui, est lu à cause du feuilleton de Geoffroy, premier critique de son temps. Et l'ermite de la Chaussée-d'Antin jouit, s'en moque, avec précisément un humour très grand. Je me garde bien de parler d'une chose avant que les journaux en aient parlé. Il m'est arrivé une ou deux fois de blâmer ou d'approuver un ouvrage d'après moi-même, et le lendemain, en lisant mon journal, j'étais honteux d'avoir hasardé un avis qui n'était pas celui du feuilleton de M. Geoffroy. Quand j'ai entendu Talma, j'attends que Geoffroy me dise s'il a bien joué. Mais Geoffroy fait l'opinion sur des points très précis, la littérature ou le théâtre, il ne fait pas l'opinion en général. En réalité, ce sont plutôt les placards ou les affiches qui peuvent avoir un impact plus grand que la presse. Le cours de la rente à 5% à la bourse est considéré comme un reflet de la fluctuation de l'opinion. Chaque matin, le cours de la veille est communiqué à Napoléon dans le bulletin de police générale qui lui est remis. Bien sûr, la bourse n'est pas à l'époque aussi importante qu'aujourd'hui, mais l'indicateur le plus fiable de l'état de l'opinion est indiscutablement la rente 5% sur l'État. Elle se nomme ainsi d'après le taux d'intérêt alloué au capital dont l'État s'est constitué le débiteur. Lorsque le rentier prête 100 francs à l'État, il en reçoit un intérêt de 5 francs. Et le titre peut se vendre, et donc il se voit coté en bourse. Et ces variations reflètent la confiance que l'on a dans l'État. On ne prête pas à un État au bord de la faillite ou en train de s'écrouler. La rente 5% est cotée à 11 francs le 17 Brumaire. Elle monte à 22 francs après le coup d'État. Reste aux alentours de 25 francs avant Marengo. Le pouvoir n'est pas encore stabilisé. Puis la confiance s'établit à 37 francs, à 66 francs après la victoire de Sterlitz. En mars 1811, lors de la naissance du roi de Rome, elle atteint son sommet, 81 francs, pour ensuite ne cesser de baisser. Mais le cours de la bourse n'intéresse au fond que les classes possédantes. Il y a un autre indicateur, le prix du pain de 4 livres à Paris. Le prix moyen est de 12 sols. S'il dépasse 15 sols, et s'il monte à 20 en raison de sa rareté, le gouvernement peut s'alarmer. La réaction de l'opinion risque de déboucher sur l'émeute. C'est pourquoi le prix quotidien du pain est toujours indiqué lui aussi dans le bulletin de police générale. La conscription est aussi un baromètre valable pour l'ensemble du pays. L'accroissement du nombre des réfractaires au service militaire à partir de la guerre d'Espagne traduit l'impopularité de la guerre en général et la fin de cet élan patriotique né en 1792. Mais l'opinion proprement dite, ce sont les propos de salon rapportés par les mouchards, les rumeurs qui courent dans les campagnes. Les origines en sont le plus souvent inconnues. La diffusion échappe à toute logique et donc à tout contrôle. On a vu lors de la Grande Peur de l'été 1789 comment les bruits les plus absurdes pouvaient déclencher des paniques qui débouchaient sur de grands désordres. On comprend donc que Napoléon se soit encore interrogé à Sainte-Hélène sur cette puissance de l'opinion sans laquelle rien n'est possible. Une puissance invisible, mystérieuse, vague, mobile, versatile, qui peut renverser un gouvernement par l'émeute, plus redoutable que les armées de l'archiduc Charles ou de Kutuzov. Un monarque de droit divin, sacré à Reims, peut considérer n'avoir de compte à rendre qu'à Dieu, mais pas un général victorieux couronné empereur à Notre-Dame. Les manifestations de l'opinion, il doit les surveiller s'il veut maintenir son autorité. Comment Napoléon a-t-il maîtrisé l'opinion ? Ce sera le deuxième point de cette communication. Selon Pelet de la Lozère, Napoléon aurait déclaré devant le Conseil d'État en 1804 « Je respecterai les jugements de l'opinion publique quand ils seront légitimes, mais elle a des caprices qu'il faut savoir mépriser. C'est au gouvernement de l'éclairer et non de la suivre dans ses écarts. J'ai pour moi la volonté de la nation et une armée de 500 000 hommes. » Le régime consulaire, puis impérial, est fondé sur un exécutif fort dont le chef tire sa légitimité du peuple et n'est responsable que devant lui. Ce pouvoir, l'empereur ne le tient pas des élections. Celles-ci cessent de compter. Le droit de vote se réduit pour les électeurs réunis dans les assemblées cantonales, puis dans les collèges d'arrondissement et enfin dans les collèges de département, à une présentation de listes sur lesquelles le pouvoir central choisit les députés, les conseillers généraux, les maires. Trois systèmes électoraux se sont succédés, celui de la Constitution de l'an 8, celui du Senatus Consul du dit Thermidor an 10 et celui des 100 jours. Mais il n'y a pas à proprement parler d'élection donnant la parole au peuple. À plusieurs reprises, Napoléon affirme que les électeurs, comprenons les membres des collèges électoraux, n'élisent pas des représentants pour exercer en leur nom la souveraineté nationale, mais désignent des personnes aptes à occuper les fonctions de sénateur, de député, de conseiller général, des personnes et non des opinions. Dans le Moniteur du 15 décembre 1808, Napoléon affirme que le corps législatif ne représente pas la nation. Il est la réunion des mandataires des collèges électoraux. Le représentant de la nation, c'est l'empereur. Encore le 1er janvier 1814, quand le corps législatif, croyant se faire l'interprète de l'opinion, réclame la paix, Napoléon s'exclame : Où est votre mandat ? La France me connaît. Vous connaît-elle ? Elle m'a deux fois élu pour son chef par plusieurs millions de voix. Et vous ? Elle vous en a, dans l'enceinte étroite des départements, désigné par quelques centaines de suffrages pour venir voter les lois que je fais et que vous ne faites pas. Désignés par l'empereur, les députés ne sont pas les représentants, ne sont pas l'expression de l'opinion. C'est le référendum qui compte. C'est de lui que Napoléon tient son pouvoir, ce référendum que l'on appelle plébiscite. Il y eut 4 appels au peuple, en l'an 8, en l'an 10, en l'an 12 et pendant les 100 jours, à chaque fois sur un projet constitutionnel. Napoléon n'a pas inventé le référendum, la Révolution en avait fait usage pour faire approuver les constitutions de 1793 et de 1795, mais la différence entre ce référendum napoléonien et celui de la Révolution, c'est que cette fois, on vote pour un homme plus autant que sur un texte constitutionnel. On donne le pouvoir à un individu. Au moment du vote sur la Constitution de l'an 8, quelqu'un interroge « Qu'y a-t-il dans la Constitution ?» et un autre de répondre « Dans la Constitution, il y a Bonaparte. » Pour voter, on inscrit son nom sur le registre des « oui » ou le registre des « non ». Les registres sont déposés dans les mairies, dans les préfectures, chez un notaire ou dans les justices de paix. Et l'avantage de voter sur les registres, c'est que l'on peut justifier son vote. Certains composent même des épopées de centaines de vers pour justifier leur oui ou leur non. Vous voyez, l'autre conséquence, c'est qu'évidemment, le secret du vote n'est pas respecté. Alors, le gouvernement, qui est conscient du problème, promet qu'après dépouillement, les registres seront détruits. En réalité, ils sont tous facilement consultables aux archives nationales. L'avantage du référendum pour le gouvernement, c'est qu'il est seul maître de la date et de la question. L'inconvénient, toutefois, le danger, c'est l'abstention qui peut être interprétée comme un vote négatif. Or, cette abstention fut forte lors du premier référendum, celui de l'an 8. La victoire du oui était incontestable, mais il y eut près de 80% d'abstention. Alors, les chiffres furent falsifiés par Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur. Il ramena l'abstention à 62% en gonflant le chiffre des oui. Il n'y avait eu qu'1 500 000 oui, on monta à 3 011 000. Comment ? Eh bien, en arrondissant les chiffres. On ajoutait un zéro par-ci, deux zéros par-là, on se trompait dans une addition, mais bien sûr, en grossissant le chiffre. Et puis, en considérant que l'armée ne pouvait que répondre par oui à la question que lui posait son général. Et donc, comme il y avait 500 000 soldats, on ajouta 500 000 oui au chiffre normal. On le voit, le référendum est un moyen de maîtriser l'opinion tout en feignant de s'appuyer sur elle. Si je lâche la bride à la presse, je ne resterai pas 3 mois au pouvoir, déclarait Napoléon. Le lendemain du coup d'État de Brumaire, le gouvernement supprimait 60 feuilles. Il n'en restait que 13. Il n'y en eut plus que 4 en 1811. Et en province, il n'y avait qu'un seul journal par département. Napoléon accable le ministre de la police, responsable de la censure, jusqu'à la création d'un bureau de censure. Il l'accable de remarques acerbes sur la presse. Les tracas sont constants. Impossible, avant même l'apparition de censeurs dans les rédactions, d'exprimer une opinion non officielle. Le bien informé est supprimé pour cause de mauvais esprit, sans aucune explication. L'ami des lois est sanctionné pour s'être moqué ouvertement de l'Institut. On ne peut alors qu'approuver, évidemment, la sanction. Mais, en réalité, c'est pour avoir mal accueilli un rédacteur que voulait lui imposer le gouvernement. La presse religieuse n'est pas épargnée, la politique chrétienne trop favorable aux réfractaires est supprimée, mais également les annales de la religion de l'abbé Grégoire, bien disposé, lui, à l'égard du clergé constitutionnel. Quand on ne supprime pas, on fusionne. C'est le cas de la Descartes philosophique et du Mercure en 1807, malgré les protestations des écrivains qui les rédigeaient. Certes, une commission sénatoriale de la liberté de la presse est créée par la Constitution de l'an 12, mais son rôle est inexistant. Les sénateurs ne se réveillent qu'en 1814, quand le régime s'écroule. Il n'y a donc qu'une solution si l'on ne veut pas avoir d'ennui, c'est se contenter de reproduire les informations données par le Moniteur, le journal officiel dirigé par le gouvernement. La censure n'épargne pas le théâtre. En 1805, la tragédie de Renoir sur les Templiers subit des coups de ciseaux. On voit une allusion au procès du général Moreau un an plus tôt dans ses vers. Vous accusez. Il faut qu'un jugement auguste prouve qu'en accusant, le monarque fut juste. Bien connue est l'interdiction de l'Allemagne, de Madame de Staël, un peu trop remuante, au point d'exaspérer Napoléon. Sade est à Charenton. Il continue d'écrire, mais ses papiers sont saisis. Pas perdus pour tout temps. Lors des soupers fins que donne le préfet de police Dubois, en dépliant sa serviette, on retrouve quelques pages de Sade accompagnées d'une gravure licencieuse également saisie par les limiers du préfet. Inutile de dire que les dîners du préfet de police sont très recherchés. Un infortuné poète fait de la prison pour ces deux vers que je vais vous lire. Oui, le grand Napoléon est un grand caméléon. La rime est riche, mais l'inspiration un peu courte. 2 ans de prison, c'est cher payé pour ces malheureux vers. Les salons où se comportent beaux mots et traits d'esprit sont surveillés. Des mouches rapportent au ministre de la police les propos qui y sont tenus. Et c'est ainsi que le salon de Madame Récamier sera supprimé en 1803. L'emprise du gouvernement s'étend évidemment à la bourse. La crédibilité du gouvernement, je vous l'ai dit, dépend du cours de la rente. Alors, pour soutenir ce cours dans les périodes de crise, Napoléon donne l'ordre à la caisse d'amortissement d'acheter de la rente. On en arrive ainsi qu'à la fin de l'Empire, près de 40% de la rente, 5%, est détenue par des établissements publics. Donc, ces variations perdent toute signification, tandis que se durcissent les mesures contre les réfractaires et les déserteurs dont on cache soigneusement le nom. Mais Napoléon ne se contente pas de maîtriser l'opinion. Il la façonne. Et c'est là que son génie éclate. Ce sera le troisième point de cette communication. Tous les moyens dont Napoléon dispose vont servir à exalter sa gloire en créant le mythe du sauveur, puis de l'empereur au-dessus des autres. La presse en est le principal instrument. Cela commence dès la première campagne d'Italie. Bonaparte crée des journaux comme La France, puis de l'armée d'Italie, Le Courrier de l'armée d'Italie, ou mieux encore, Journal de Bonaparte et des hommes vertueux, évidemment par contraste avec la corruption du directoire. Bonaparte rédige lui-même les principaux articles. Et on lit. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. Il sait qu'il est des hommes dont le pouvoir n'a d'autre borne que leur volonté, quand la vertu seconde un vaste génie. Un mythe est en train de naître. Lodi et Arcole ne sont que de modestes batailles en réalité, mais elles prennent dans ces journaux l'allure d'une épopée et parlent à l'imagination. Pensez au pont d'Arcole que l'on se dispute sous la mitraille, à Nuiron qui fait protection de son corps pour sauver son général. Et voilà l'opinion déjà subjuguée. Premier consul, Bonaparte va accentuer cette mainmise sur la presse sur les conseils de Joseph Fievé, l'un des esprits les plus subtils de la période. Il est connu d'ailleurs pour ses mots fameux, La politique, même en gouvernement représentatif, c'est ce qu'on ne dit pas. Ou encore, quand on a un ennemi, le plus sûr moyen de s'en venger, c'est de lui survivre. Fievé, qui sera maître des requêtes au Conseil d'État, puis préfet de la Nièvre, fait remarquer à Bonaparte, dont il est dans les conseillers secrets, que la censure, trop voyante, a un inconvénient. Elle ruine la crédibilité des journaux, car le public en prend vite conscience et se détourne de la feuille. Plus habile est de ne pas toucher à l'orientation du journal, mais lui imposer de temps à autre des articles en faveur du gouvernement que l'on croira venus de la plume du rédacteur du journal. Ainsi, lit-on dans le Journal de Paris du 19 Brumaire en 9, un article sur le premier consul où il est dit « La force prodigieuse des organes du premier consul lui permet 18 heures de travail par jour. Elle lui permet de fixer son attention pendant ces 18 heures sur une même affaire ou de l'attacher successivement à 20 sans que la difficulté ou la fatigue d'aucune embarrasse l'examen de l'autre. » Bonaparte rédige lui-même des articles dont le moniteur et dans d'autres feuilles sans les signer, mais l'on reconnaît son style. Ainsi, à propos de l'assassinat du tsar Paul Ier le 24 mars 1801, veut-il faire savoir à l'opinion que ce sont les Anglais qui sont à l'origine de l'assassinat ? Je cite, Paul Ier est mort dans la nuit du 24 au 25 mars. L'escadre anglaise a passé le Sindre le 31. L'histoire nous apprendra les rapports qui peuvent exister entre ces deux événements. Rien n'est affirmé, tout est suggéré. Napoléon raconte ses batailles en inventant les communiqués de guerre avec ces fameux bulletins de la grande armée dictés par l'empereur à son état-major. Les manœuvres y sont analysées, les combats expliqués et les actions des classes citées. Bien entendu, comme tout communiqué de guerre, le bulletin ne dit pas toujours toute la vérité, mais surtout, il amplifie les victoires, exalte Napoléon. Les bulletins imposent l'image d'un génie militaire sans faille que seules les circonstances imprévisibles peuvent abattre. Un caporal imbécile qui fait sauter prématurément un pont à Leipzig, la panique absurde qui s'empare des troupes à Waterloo. Mais ces bulletins nous donnent également l'image d'un homme épris de paix et contraint de mener une guerre qu'il déteste. D'où sa tristesse après la bataille, lorsqu'il se promène sur le champ des combats, ses réflexions sur la guerre. Voici, mes chers confrères, la conclusion du bulletin racontant la bataille de Bautzen. Duroc, le fidèle Duroc, a été blessé à mort. L'empereur va le voir après la bataille. Je cite. Il le trouva avec toute sa connaissance et montrant le plus grand sang-froid. Le duc serra la main de l'empereur qu'il porta sur ses lèvres. « Toute ma vie, lui dit-il, a été consacrée à votre service et je ne la regrette que pour l'utilité qu'elle a perdue, en qu'elle persiste encore pour vous. » « Duroc, dit l'empereur, il est une autre vie. C'est là que vous irez m'attendre et que nous nous retrouverons un jour. Oui, sire, mais ce sera dans 30 ans, quand vous aurez triomphé de vos ennemis et réalisé toutes les espérances de notre patrie. J'ai vécu en honnête homme, je ne regrette rien, je laisse une fille, votre majesté lui servira de père. » L'empereur, serrant de sa main droite le grand maréchal, reste un quart d'heure, la tête appuyée sur sa main gauche, dans le plus profond silence. « Ah, sire, allez-vous-en, ce spectacle vous peine. » L'empereur, s'appuyant sur le duc de Dalmatie et sur le grand écuyer, quitta le duc de Frioul sans pouvoir lui dire autre chose que ces mots « Adieu donc, mon ami ». Sa Majesté rentra sous sa tente et ne reçut personne pendant la nuit. Un Olympien sensible à la souffrance humaine. On le voit, le bulletin de la Grande Armée n'est pas un sec communiqué limité récit de la bataille. Il s'humanise et c'est dans cela qu'il est plus efficace. Les bulletins étaient affichés dans Paris et leur arrivée était annoncée dans toutes les villes, bourgs et villages au son de la cloche ou du tambour, élu jusque dans les bourgs les plus reculés par les gardes champêtres. Leur lecture était obligatoire dans les lycées. Vigny raconte, les maîtres ne cessaient de nous lire les bulletins de la Grande Armée et nos cris de « Vive l'Empereur » interrompaient Tacite et Platon. Imaginez, mes chers confrères, le cancre, lycée, qui est au tableau, et qu'on interroge sur le théorème de Pythagore. Pas la moindre idée sur ce théorème chez le cancre. Il essaie de gagner du temps parce que bientôt va résonner le tambour qui annonce la récréation. Il faut tenir jusque-là pour éviter le zéro. Et il peine, et il souffre. Et tout à coup, la porte s'ouvre. Le proviseur paraît avec le bulletin de la Grande Armée et il confie au cancre le soin de le lire. Le cancre est sauvé, Pythagore est oublié, le zéro s'éloigne. Comment, mes chers confrères, le cancre n'aimerait-il pas Napoléon ? Au théâtre, on interrompt la représentation pour permettre aux acteurs de les déclamer. Voici Talma en scène à la Comédie française. « Allons, mon cher Néarque, allons aux yeux des hommes !» Et à ce moment-là, il voit dans la coulisse le régisseur qui tend le bulletin de la Grande Armée. Alors il s'interrompt, il lit le bulletin de la Grande Armée, plus exactement, Talma le déclame, tonnerre d'applaudissements. Et il reprend, bravez les idoles et montrez qui nous sommes. À nouveau, tonnerre d'applaudissements, tandis qu'il quitte la scène. Et puis comment, mes chers confrères, les publics de la Comédie française n'aimeraient-ils pas Napoléon ? Au prône, à l'église, le curé qui inflige à ses fidèles un sermon bourré de théologie qui les ennuie, ce jour-là, il ne peut pas faire son sermon, car il doit lire le bulletin de la Grande Armée pour la plus grande joie des fidèles. Comment les fidèles de son église n'aimeraient-ils pas Napoléon ? Un tableau de Boilly, qui est le peintre des scènes familières de l'Empire, nous montre une famille lisant le bulletin de la Grande Armée avec enthousiasme. Ils sont là, les enfants, et ils ont une carte pour suivre le détail des opérations. Toutefois, seul, dans un coin, indifférent, deux amoureux se livrent à une autre stratégie, à une autre conquête. Boilly n'a jamais manqué d'humour. Nul ne peut donc ignorer les victoires de l'empereur. L'image populaire, relayée par l'image d'Épinal, diffusée par les colporteurs, prolonge l'effet du bulletin. Lamartine, dans ses mémoires, raconte comment elles exaltaient l'imagination des enfants. Et d'ailleurs, Napoléon n'a-t-il pas conçu son personnage pour l'image ? Le petit chapeau, la main dans le gilet, la redingote grise, n'importe quel acteur, même sans talent, peut interpréter le rôle de Napoléon, il suffit qu'il mette le petit chapeau. Ainsi, nous voyons donc que l'opinion est préparée par ces bulletins de la Grande Armée, par ces communiqués. Mais cela se prolonge également dans le salon de peinture. Pour les salons de peinture, les sujets sont imposés. Ainsi, en 1806, les instructions pour les peintres qui vont exposer rappellent qu'il faudra prendre les sujets suivants. L'empereur haranguant le deuxième corps d'armée à Augsbourg. Les Autrichiens prisonniers de guerre sortent d'Ulm et défilent devant Sa Majesté. L'entrevue de l'empereur Napoléon et de l'empereur François II. Les tableaux précisent les instructions. seront exécutés dans la proportion de 3 mètres 3 décimètres de haut sur 4 ou 5 mètres de large. C'est inventer la culture dirigée. Le fameux Napoléon traversant les Alpes par David provoque chez Chateaubriand cette exclamation. Il traverse le Saint-Bernard sur un cheval fougueux dans un tourbillon de neige et il faisait le plus beau temps du monde. Signalons d'ailleurs que Napoléon traverse les Alpes sur un mulet et non sur un cheval. La musique est au service de la propagande. Le triomphe de Trajan, l'opéra de Le Sueur, est en réalité le triomphe de Napoléon. La chanson des rues continue l'effet des images populaires. Elles se développeront sous la monarchie de Juillet. Les monuments, à leur tour, reçoivent et inscrivent le souvenir des victoires de Napoléon dans le paysage parisien. Au milieu de la place Vendôme va s'élever une colonne comparable à celle érigée en l'honneur de Trajan à Rome. Les bas-reliefs fondus dans le bronze des canons pris à l'ennemi, 73 au total, dessinés par Bergeret, rappellent les principaux épisodes de la bataille d'Austerlitz. Au sommet, la statue de Napoléon par Chaudet. Inaugurée en 1810, la cérémonie fait une telle impression que la colonne Vendôme devient le symbole de l'épopée napoléonienne. Les royalistes ne s'y tromperont pas en la battant en 1814 et à leur tour, les communards en 1811 la font s'écrouler. C'est aussi l'arc du carrousel dont la tradition de Constantin et de Septime Sévère sont posés les fondements de l'arc de triomphe de l'étoile. Il y a le début de la rue de Rivoli, le percement de la rue d'Ulm, le pont d'Iéna, le pont d'Austerlitz. Tout cela s'inscrit dans le paysage et dans la vie quotidienne des Français. Est-il, mes chers confrères, plus formidable conditionnement des esprits. Et dans ces hauts lieux se déroulent des parades militaires qui frappent les esprits. Ah, Hegel, à Berlin, voyant Napoléon paradant avec son état-major, ne s'en remet pas et dit qu'il a vu l'âme du monde à cheval. Sainte-Beuve, dans Volupté, décrit l'une de ses parades avec enthousiasme. Balzac, dans La femme de 30 ans, en évoque lui aussi une autre. Et Hugo ne reste pas insensible. Nous, enfants de 6 ans, rangés sur ton passage, cherchant dans ton cortège un père au fier visage, nous te battions des deux mains. Les enfants, mes chers confrères, c'est sur cette base qu'il faut s'appuyer pour conditionner les esprits. Et donc, la religion se met au service de la propagande napoléonienne. Le catéchisme impérial impose l'obéissance à l'empereur. Citons-le, Dieu qui crée les empires et les distribue selon sa volonté, en comblant notre empereur des dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, l'a rendu le ministre de sa puissance et son image sur la terre. Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers l'empereur? Selon l'apôtre saint Paul, ils résisteraient à l'ordre établi par Dieu et seraient voués à la damnation éternelle. L'anniversaire de la naissance de l'empereur devient fête nationale et l'on crée un saint Napoléon. C'est donc, vous le voyez, le culte de la personnalité qu'invente Napoléon annonçant les dictateurs du XXe siècle. Staline, la moustache, la vareuse, la pipe, tout ce personnage du petit père des peuples renvoie au petit caporal. Hitler, en 1940, dans Paris occupé, vient saluer le tombeau de Napoléon. Et Mussolini écrit une pièce de théâtre sur le retour de l'île d'Elbe, qui sera joué à Paris avec Firmin Gémier dans le rôle de Napoléon. Tous ces dictateurs renvoient à Napoléon. Sauf qu'ils ont oublié une chose, c'est la fin de l'histoire de Napoléon. Car l'opinion peut être maîtrisée, mais elle est versatile, mystérieuse, changeante, mobile. Et voilà que Napoléon est vaincu en 1814. Et que cette opinion qu'il semblait tenir en main se retourne contre lui. C'est la naissance de la légende noire de l'ogre de Corse. Une légende noire forgée par une multitude de caricatures et de pamphlets dont le de Bonaparte et des Bourbons de Chateaubriand et de l'esprit de conquête et de l'usurpation de Benjamin Constant sont les principaux, donnant l'image d'un Napoléon nouvel Attila, nouveau Gengis Khan, nouveau Néron, un tyran sanguinaire, plus sanguinaire peut-être que ceux qui l'avaient précédé. L'opinion, d'un coup, a changé. Vous voyez qu'il est difficile de la maîtriser. Et c'est alors que Napoléon livre sa dernière bataille, la plus belle, la plus éclatante, la reconquête de l'opinion. Il la gagne, cette bataille, grâce au mémorial de Sainte-Hélène, publié en 1823, 2 ans après sa mort. C'est ce livre de Lascazes qui sera probablement le plus lu au XIXe siècle. Le mémorial évoque la captivité de Napoléon soumis aux brimades d'un geôlier étriqué, résidant dans une humble demeure longue de lui qui a couché à Schönbrunn, à Potsdam, à l'Escurial et au Kremlin. Quel contraste! C'est Prométhée sur son rocher. Et Napoléon raconte dans le mémorial ses victoires, rappelant la gloire passée. Quel contraste! Avec cette France humiliée et amputée sous les Bourbons sans charisme. Il se fait enfin le porte-parole des aspirations de l'Europe au libéralisme et aux principes des nationalités. Il le peut, n'est-il pas le prisonnier de la Sainte Alliance qui étouffe ses idées? L'effet du mémorial est considérable. Les romantiques s'enflamment, l'opinion se retourne, la légende triomphe dans toute l'Europe et Chateaubriand de s'exclamer « Vivant, Napoléon a manqué le monde, mort, il le possède. » Mais avant de conclure, interrogeons-nous. Quelle est la personne sans laquelle ce gigantesque conditionnement de l'opinion n'aurait peut-être pas eu lieu? J'ai déjà évoqué cette personne devant notre président à la bibliothèque Thiers. Mes chers confrères, supposez que le 15 août 1769, Madame Laetitia Bonaparte, née Ramolino, accouchant de son deuxième fils, au lieu de le prénommer Napoléon, l'eût appelé Ernest. Seriez-vous venus nombreux entendre aujourd'hui parler d'Ernest et de la maîtrise de l'opinion? Admireriez-vous le sacre d'Ernest peint par David? Évoqueriez-vous les victoires d'Ernest à Austerlitz et à Wagram? Mais Napoléon! Ses autres fils, Madame Laetitia, les prénomme Joseph, Lucien, Louis, Jérôme, prénom d'une grande banalité. Mais celui-là sera Napoléon. Napoléon, cela sonne comme un produit de marketing. Napoléon, comment l'opinion ne serait-elle pas subjuguée par ce prénom Napoléon? Mes chers confrères, c'est à Madame Mère que ce soir doivent aller vos applaudissements. Sans elle, peut-être, n'y aurait-il pas eu cette communication. Je vous remercie.